commencer par une correction du sujet de dissertation. Doit-on tout attendre de l'État? Et donc, Mlle Antonin, vous avez une proposition à nous faire, alors on vous écoute.
Alors, en grand 1, j'ai mis, donc, nous devons tout attendre de l'État.
Oui.
Donc, j'ai mis deux sous-parties.
Oui.
La première sous-partie, je l'ai appelée Histoire et héritage.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire, j'ai utilisé comme... j'ai mis d'abord que la France est un État providence, c'est-à-dire que l'État intervient dans les domaines social et économique.
Mmh.
Et donc, comme exemple, en fait, j'ai mis un fait historique. Donc, suite au krach boursier, Léon Blum pratique une politique d'intervention de l'État providence. Et comme exemple, par exemple, les salaires ont été augmentés de 15% et on a une création de 15 jours de congés payés.
D'accord. J'écris en même temps, peut-être que je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir. Ça, on va pouvoir corriger ensemble sur le même écran. Donc, je fais partage d'écran, hop. Voilà, et comme ça, ça devrait le faire. Ok, voilà. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, là?
Oui. Oh. Oui.
Donc, est-ce que ça reprend bien ce que vous m'avez dit? Histoire et tradition, c'était ça le deuxième mot?
Héritage.
Héritage. Ok. Avec Léon Blum et les 15 jours de congés payés à partir de 36.
Oui.
Ok. On vous écoute pour la suite.
Donc voilà. Après, pour le pour la deuxième sous-partie.
Oui.
Donc j'ai mis sur plan social et économique.
Oui.
Et j'ai pris aussi toujours l'exemple de la France en disant que les Français disposent d'aides sociales telles que les allocations familiales, la sécurité sociale ou encore une éducation gratuite et nationale.
Oui. Donc ça, c'est ce qu'on avait un peu évoqué ensemble.
Oui.
Sur les... Alors, ce que parfois on appelle les acquis de 45, c'est-à-dire les mesures sociales qui ont été votées, proposées par le Parti communiste à l'issue de la guerre 39-45. Hop. Et qui ont été votées, alors pour vous donner l'histoire un peu en off de ces mesures-là, bon, il n'y a rien de secret, hein, c'est pas non plus une grande révélation, mais vous savez que le Parti communiste a pris part à la résistance de manière assez forte, et que c'est le fait que, notamment en Russie, il y a eu la rupture du pacte germano-soviétique, et que finalement les Russes se retournent contre Hitler, qui a aussi contribué à ce que... la guerre change, que le rapport de force dans la guerre change. Et donc, en contrepartie, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a accordé aux communistes un certain nombre de mesures, aux députés communistes, dont ces mesures donc, sociales, qui sont inspirées plutôt du modèle communiste, ou on pourrait dire socialiste. Je ne sais pas si vous êtes au clair sur la différence entre socialisme et communisme.
Si vous pouvez faire un petit rappel, je veux bien.
D'accord. Donc, dans la doctrine qui est celle de Lénine, hop,
ouais.
Qui reprend le marxisme, donc on appelle ça le marxo-léninisme. Donc, le marxisme est repris avec un plan plus précis, on va dire, d'exécution de l'idéal politique et économique de Marx. Et donc, dans ce cadre-là, Lénine, il propose de commencer par établir le socialisme, puis ensuite le communisme. Donc, le socialisme, c'est une manière, c'est à peu près ce qu'on a en France avec ces aides sociales, hein. Ça passe par le fait de rendre public, de nationaliser certaines entreprises, comme les entreprises, enfin les industries de l'électricité, des matières premières, le pétrole par exemple, les énergies en général, les télécommunications. Ce qui fait qu'en France, on a eu les PTT, les postes et télégraphies. Alors c'était quoi? On avait un autre T, je ne sais plus ce que c'était. C'est encore écrit sur des vieilles postes, des fois vous avez encore écrit PTT. On avait l'EDF, Électricité de France, GDF, Gaz de France. Air France, c'était national. Et tout ça est en train d'être privatisé. On fera mesure. France Télécom, qui est devenue Orange. France Télécom, c'était la télécommunication française, donc c'était national, etc., etc. Quand vous avez un État, notamment par exemple en Amérique du Sud, où des fois ça bouge un peu, vous avez un dirigeant communiste qui arrive au pouvoir, c'est arrivé souvent dans la deuxième partie du XXe siècle, ça passe souvent par des nationalisations, notamment de mines, de matières premières, parce que c'est ce qui est convoité par les grandes puissances, et c'est là où les États-Unis, par exemple, vont vouloir s'implanter, vouloir récupérer des mines d'extraction, je sais pas, de minerais, quel qu'il soit. Le lithium, je crois que c'est plus en Afrique, si je me trompe pas, actuellement. Et donc, il y a toujours des enjeux géopolitiques et économiques autour de ces ressources. Et quand il y a un État communiste qui est au pouvoir, il nationalise pour garder ces richesses-là et pouvoir distribuer les bénéfices à ses citoyens, en fait, à ses concitoyens.
D'accord.
Et donc ça, c'est le socialisme. Le socialisme, c'est un cran en dessous du communisme. Et le communisme, c'est vraiment une mise en commun dans le sens où ça va passer par des expropriations. Généralement, des gens qui sont aisés, donc des plus riches, et une redistribution des richesses, avec souvent des biens, des services qui sont gratuits. Exemple, le logement. Dans la Russie soviétique, les appartements, les logements étaient gratuits. C'est comme si tout le monde avait un logement de fonction.
Mais du coup, ils n'ont pas le droit d'être propriétaires.
Non, ils sont juste locataires gratuits. Voilà. Et le seul hic, en quelque sorte, c'est que du coup, c'était des logements communautaires. C'est-à-dire que dans un grand appartement, vous aviez quand même 2-3 familles.
Ah ouais.
Donc, y a vraiment une idée d'éradiquer la propriété privée. De la même manière, tout ce qui va être lié à l'organisation du travail va être repensé. Il va y avoir une valorisation souvent du travail ouvrier, industriel. Alors ça, c'est très lié à l'histoire de l'URSS, hein, quand même. Hein. C'est pas vraiment dans le communisme de base, mais en fait, il y a une revalorisation des métiers manuels pour casser la hiérarchie sociale qui permet aux intellectuels, soi-disant, on ne sait pas trop si c'est vrai, mais et à la bourgeoisie, aux classes cultivées, de dominer les classes moins cultivées. Voilà, donc il y a un rapport au savoir qui est des fois un peu particulier. Mais sur le plan seulement d'attente de l'État, en dehors de ces idéologies-là, il y a vraiment l'idée que c'est l'État qui est propriétaire et que l'ensemble des gens qui habitent sur un pays, dans un pays, là, communiste, ne seront que les bénéficiaires temporaires d'un bien ou d'un service.
Ouais.
D'accord ? Donc c'est une abolition de la propriété privée. Je vous le mets là, autant que faire se peut. Alors, est-ce que vous pouvez citer, pour tester vos connaissances historiques, des pays qui ont été communistes pendant la guerre froide, dans le bloc de l'Est ?
La Chine.
Ouais, la Chine. Donc, ce qui est assez drôle, c'est République démocratique de Chine, RPC, ouais. Alors qu'en fait, bon, voilà, c'est pas très démocratique. Alors, avant, c'était la Chine communiste, hein, c'était plus affiché. Et vous vous rappelez qui était le leader ?
Ouais. Mao Tse-tung.
Ouais, Mao Tse-tung, qui était donc, qui a fondé le maoïsme. On a eu en France des gens qui étaient maoïstes, hein. Souvent des intellectuels de gauche des années 60-70, plus 60, parce qu'après on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes quand même dans le maoïsme. On s'en est rendu compte à partir des années 60 parce qu'en 56, Staline meurt, et c'est là qu'on découvre peu à peu tout ce qui était censuré, c'est-à-dire les goulags, le fait que ces expropriations elles se passaient pas très bien, les répressions contre les intellectuels ou les dissidents, et ça a mis du temps à sortir en fait. Et les gens qui faisaient partie du Parti communiste français, qui avaient été résistants pendant la guerre, qui avaient un idéal assez pur au niveau politique, voulaient pas le croire, en fait. C'était pas acceptable pour eux. Parce que pour eux, la Russie, du coup, c'était un modèle. Et voir le modèle s'effriter et s'écrouler, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à l'accepter. Je vous le dis parce que, du coup, on peut citer des intellectuels pour ça. Donc, en URSS, Russie soviétique, on a eu donc Staline jusqu'en 56. Et on avait des intellectuels en France, comme Aragon, par exemple, et sa femme Elsa Triolet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Louis Aragon et Elsa Triolet.
Non.
Ouais, vous n'avez pas forcément lu des poèmes d'Aragon.
Non.
Aragon, il a écrit des poèmes qui s'appellent Les yeux d'Elsa, justement pour sa femme. Et elle, elle était russe, hein, en fait. Hein, c'est un pseudo, Triolet. Et donc, ils étaient communistes. Et au moment où ils ont découvert ce qui se passait vraiment en Russie, ils ont eu du mal à l'accepter et à y croire. Mais après, bon, ils ont fait leur changement.
Parce que les Russes ne le voyaient pas, tout ce qui se passait.
Ah si, mais vous n'avez pas le droit de le dire. La Russie, c'était quelque chose de... Bon, ça a toujours été un régime autoritaire. Hein. Les tsars, c'était un régime autoritaire. Le communisme, ça a été un régime autoritaire. Et là, actuellement, avec Poutine, bon, voilà, ça n'a pas trop changé. Et donc, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espionnage. Hein. On a le cas de certains dissidents, comme par exemple, je vais vous le mettre, je vais mettre un dissident, une poétesse, qui s'appelle Anna Akhmatova, qui est une grande poétesse russe. Qui, elle, était opposée au communisme, et son mari a été emprisonné et a été tué, son fils a été emprisonné et a été tué, et pour pouvoir faire passer ses poèmes, qui étaient très, très indirects, enfin très symboliques en fait, hein, elle n'attaquait pas directement le régime dans ses poèmes évidemment, en fait elle était obligée de les apprendre par cœur, et parfois elle les écrivait sur un petit bout de papier. Et quand elle invitait quelqu'un à venir chez elle, elle lui montrait le bout de papier pour que l'autre mémorise aussi le poème. Et après, elle brûlait le papier parce qu'elle savait qu'il y avait des micros chez elle.
Ah oui.
Donc, oui, non, c'était ça, hein, la Russie soviétique. Et donc, ensuite, la personne pouvait passer à l'est, à l'ouest plutôt, parce qu'il y avait un mur, le mur de Berlin, qui empêchait le transit entre les deux blocs. Et quand une personne faisait un transfert de l'est vers l'ouest, souvent, ils étaient chargés de ramener des trucs, des messages pour l'est, parce que justement, les gens qui étaient de l'autre côté du mur essayaient de faire passer des messages. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Hein. Tout était contrôlé, espionné. Donc, il y a pas mal de gens qui essayaient de faire comprendre à l'ouest ce qui se passait à l'est. Et il y a très peu de choses qui avaient fuité. Et les dissidents étaient traqués et assassinés. Le principal dissident opposant à Staline, qui était Trotsky, a été assassiné au Mexique, par exemple. Voilà pour l'ambiance. Bon, alors ça, c'est... En général, pour que vous ayez une culture fine aussi de ça, il faut bien distinguer le stalinisme, ce que je viens de vous raconter, donc c'est le stalinisme sous Staline, du communisme. Le communisme, c'est un idéal politique qu'on approuve ou pas, hein, mais dont la réalisation concrète... n'est pas seulement celle de Staline. Il peut y avoir d'autres manières de réaliser le communisme que ce qu'a fait Staline. C'est pas toujours synonyme de goulag, d'exécution, d'espionnage, etc. Bon, Mao, il a pas vraiment fait mieux, mais le communisme de Platon, par exemple, dans La République, c'est aussi un communisme. Vous voyez, il y a plein d'idéaux communistes. Même les premiers chrétiens, hein, ils sont communistes, en fait. Parce qu'ils veulent les choses en commun. Ils vivent en commun, les premiers chrétiens. Et même les apôtres avec Jésus. Donc, le mot communisme, en soi, c'est pas à prendre comme synonyme de Russie soviétique.
Ouais, c'est pour la communauté, quoi.
Oui, c'est un idéal politique qui refuse ou qui atténue beaucoup la propriété privée pour mettre en avant la collectivation des biens, des terres, des services, etc. pour qu'on nivelle les inégalités sociales. Ouais. Voilà. Bon, on a beaucoup parlé politique, là, du coup, mais je pense que ça vous permet de, après, de pas faire d'erreurs ou d'être plus précise, en fait, sur ces sujets qui sont pas faciles. Donc, nous devons tout attendre de l'État. Petite histoire héritage, pour dire qu'on est héritier, en fait, en termes d'État-providence, de décisions qui sont déjà pratiquement centenaires. On n'est pas en 36 non plus, mais c'est pas loin. Et sur le plan social et économique... On a précisément des aides sociales. Et après, je vous ai remis toute l'indication sur le socialisme et le communisme. Je vous en prie, madame, c'est pas grave. Ce à quoi on va réfléchir après, c'est comment reformuler les arguments pour être bien dans la réponse à la question. Mais maintenant que j'ai bien parlé, vous pouvez nous donner votre 2, je pense. Allez-y.
Peut-être juste dans la 1, je voudrais rajouter... Ce que j'ai vu dans le texte du livre, donc page 322, il y a un texte de Locke qui parle sur le droit de propriété au-dessus du pouvoir de l'État.
Oui.
Et donc j'en ai retiré une citation qui est... combat, que les hommes puissent rester maîtres de leurs biens en toute sécurité.
Ok, j'écris. Donc, que les hommes puissent rester maîtres de leurs biens en toute sécurité. Ok.
Et de ça, en fait, enfin, pour mon interprétation, c'était plutôt dire que l'État se doit de... les habitants attendent d'un État une sécurité et une liberté irréprochables.
Oui.
Voilà.
Une liberté et une sécurité irréprochables. Hop, assurer tout ça, quoi. Ok,
ouais.
Ça marche. Donc, il y a même chez Locke un penseur anglais du XVIIe siècle, hein, quand même, hein, c'est pas 9-9. Une idée de l'État qui est assez forte, où l'État, il est garant de la sécurité, et notamment de la sécurité et de la propriété privée. Donc, ça veut dire qu'on peut attendre de l'État. Alors, du coup, moi, ce que je vous propose pour améliorer votre plan, c'est d'avoir sur cela, vous voyez, le côté mesure sociale, État-providence, avec histoire-héritage sur le plan économique et social. Hop, voilà. Et puis ensuite, on va avoir, même si on n'est pas d'accord avec l'État-providence, on va avoir une attente par rapport à l'État où l'État doit garantir la sécurité de la propriété privée quand elle est quand elle existe dans un état donc non dans un état non communiste quoi hein, que ce soit socialiste ou libéral mais doit aussi garantir la propriété privée la sécurité de la propriété privée. Hop. Voilà et donc là on aurait comme plutôt comme argument l'état peut assurer ou représenter être synonyme de providence. Est-ce que vous êtes au clair avec cette notion de providence ?
Oui, c'est quand l'État vient en aide, entre guillemets, intervient dans ce qui se passe au sein du pays.
Oui, et originellement, dans quel cadre ça apparaît le terme de providence ? Est-ce que vous savez ?
En économie, non ?
Ouais, en économie. Et encore avant.
Il n'y a pas aussi la religion.
Oui, c'est en religion, en effet. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, je vais fermer ça. La providence, normalement, c'est un terme qui est lié au christianisme, justement. La providence divine. Alors, normalement, il y a, je ne sais pas s'il y a des allégories, des représentations allégoriques de la providence. Bon, là, non, pas forcément. Je vais mettre Moyen-Âge, peut-être qu'on va avoir des petites enluminures ou des allégories. Pas trop. Alors, pour vous expliquer sur le plan théologique, ce que ça veut dire la providence, bon, j'ai pas d'illustration sympa. Bon. Par exemple, pour donner une anecdote personnelle, quand j'ai loupé mes concours de philo, il y a 15 ans, ou plus, je sais plus, un de mes profs m'a dit, vous savez, c'est peut-être la providence. Bon, moi, à l'époque, j'étais un peu fâchée avec la religion. Je savais qu'il me disait ça parce qu'il était catholique pratiquant et ça m'a un peu vexée parce que je venais de rater un concours, je voulais être prof de philo, du coup je pouvais pas, je savais pas comment j'allais gagner ma vie et il me dit oh c'est peut-être la providence. Bon, d'accord. Est-ce que vous comprenez ce qu'il voulait dire en me disant ça?
C'est peut-être un peu le destin entre guillemets, c'est-à-dire que c'était peut-être pas le bon moment et que
oui
que
un mal pour un bien, quoi, quelque part.
Ouais, voilà, ouais.
Et donc, dans l'idée que la providence, c'est ce qui provient, c'est ce qui est donné, ça vient d'un mot latin qui veut dire donner, dispenser, distribuer. Et donc, c'est dans l'idée que c'est quelque chose que Dieu distribue, donne, qui n'est peut-être pas apparemment ce qu'on souhaite, mais qui va être le mieux pour nous.
Ouais, voilà.
Donc, quand on parle d'un état-providence, c'est qu'on met pratiquement l'état sur la même, le même échelle que Dieu, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui peut tout donner, mais qui distribue en fonction de ce qui semble le plus juste.
Ouais.
D'accord ? Donc ça, on peut peut-être le mettre sur le plan théologique pour que vous ayez vraiment la bonne définition. La providence est propre à Dieu et consiste à pouvoir tout donner, mais à sélectionner la manière dont distribuer les biens. Et sur le plan politique, l'État, on parle d'État-providence quand on attend beaucoup de l'État en termes là aussi de distribution des biens et des services. Voilà, pour vous donner une définition qui soit un peu historique du terme de providence. Du coup, le terme de providence, on va beaucoup le trouver dans des textes philosophiques du XVIIe, où on s'interroge beaucoup sur Dieu, sur la manière dont rationaliser Dieu, avec Descartes et puis ses disciples, Malebranche, Leibniz notamment. Et eux, ils s'interrogent sur est-ce que tout est prévu ? Est-ce que tout est mieux et pour le mieux dans le meilleur monde, meilleur des mondes possibles, ce qui va être repris par Voltaire après dans Candide d'ailleurs pour se moquer un petit peu de ça. Et ensuite, ce terme de providence, il va revenir à la mode avec l'idée de d'État-providence. Et ça, ça n'apparaît que au 19e siècle, justement, tout avec toute cette question du socialisme et de tout ça, de l'utilitarisme aussi. Bref. Donc là, j'ai dit beaucoup de mots en isme avec beaucoup de choses abstraites. Mais vous voyez que à partir d'un petit plan, on peut mettre pas mal de choses, on peut alimenter pas mal de choses, autant des exemples historiques là que des exemples plus philosophiques. Là, on n'a pas forcément d'auteur à citer, mais on a une définition qui est philosophique et qui est attachée à un autre domaine qui est la théologie. Et là, on a un auteur philosophique. Je vous en remercie. Il marche bien celui-là. Ok. Deuxième partie.
Oui. Donc, deuxième partie, nous ne devons pas tout attendre de l'État.
Ouais. Donc, l'antithèse.
Voilà, l'antithèse. Donc, j'ai mis en grand A la responsabilité.
Oui. Individuelle, alors, du coup. De chaque individu.
Oui.
D'accord.
Donc, j'ai mis comme exemple enfin, les États-Unis.
Ouais.
Qui ont eu une politique libérale.
Oui.
C'est-à-dire que en fait chaque personne est responsable de ses actes.
Oui.
Et en fait, il n'a pas de enfin, ils n'obtiennent pas réparation.
D'accord. Sur quel plan ?
Sur quel plan ? Bah, ça peut être sur un plan social. J'avais mis par exemple, il n'y a pas de sécurité sociale.
D'accord.
Donc, si une personne est atteinte d'un cancer, bah, pour qu'elle se fasse soigner, bah, faut d'abord qu'elle paye.
Oui.
Voilà.
En effet. Et du coup, on arrive à des frais hospitaliers assez faramineux, hein. Je n'ai pas de chiffres en tête, ce serait peut-être intéressant. Il y en a une de vous qui fait LLCER anglais ou pas ?
Bah, toutes les deux.
Toutes les deux ? De demander à votre prof, vous êtes avec Madame Nardello ou Madame Deville ?
Madame Deville.
D'accord, parce que Madame Deville est plus spécialisée en Royaume-Uni et Madame Nardello aux États-Unis. Donc, de toute façon, vous pouvez demander à Madame Deville, elle le sait peut-être aussi, mais un exemple de frais d'hospitalisation aux États-Unis.
Pour avoir un chiffre. On pourra demander à Madame Nardello parce qu'elle reste quand même prof d'anglais.
Oui. Ah oui, en tronc commun. Oui, oui, bah vous pouvez lui demander. Comme ça, avoir un ou deux chiffres que vous pouvez ressortir après en disserte, c'est pas mal.
D'accord.
Ah. Vous savez aussi qu'il y a eu quelque chose avec Obama qui a voulu réinstituer justement une forme de sécurité sociale.
Avec le Obamacare.
C'est ça, ouais.
Ouais, voilà.
Donc ça, c'est un truc que vous pouvez citer aussi avec peut-être, je sais pas, on va peut-être le garder pour la troisième partie, on sait pas, on va le mettre en petit truc. Obamacare.
Ouais, je pense qu'elle peut s'intégrer dans ma troisième partie.
Ok, donc on va le garder pour pas tout donner tout de suite, hein, sinon après on a
oublié. Oui.
On ne peut pas mettre le dessert au moment de l'apéro non plus. C'est un peu l'idée. Donc responsabilité individuelle. Donc ça c'est un modèle qui est un modèle libéral qui estime que chacun mérite son succès. Alors pour vous dire d'où ça vient en termes idéologiques, vous pouvez citer Max Weber. Il y a un sociologue qui a écrit l'éthique protestante, c'était ça son truc, et la morale du capitalisme, quelque chose, ou le protestantisme et la morale du capitalisme, je vous retrouve exactement le titre.
Oui, c'est un truc comme ça, on l'a vu en SES.
Ouais, c'est hyper important parce que ça explique totalement ce qui s'est développé ensuite aux États-Unis, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est ça. Et alors, c'est un. un ouvrage dans lequel il étudie l'idéologie religieuse protestante, mais appliquée à l'argent, au rapport à l'argent. Pour dire qu'en fait, dans le protestantisme, qui est la religion dominante aux États-Unis, le fait de gagner de l'argent, c'est le signe d'une élection divine. C'est une récompense que Dieu donne pour des mérites, du travail. Il y a vraiment une grande foi dans la méritocratie. Ce qui est moins présent dans le catholicisme romain. C'est-à-dire que dans le catholicisme qui est dominant chez nous, à savoir le christianisme dominant, à savoir le catholicisme romain, il y a l'idée que le rapport à l'argent n'est pas facile. Et que donc, il faut être charitable, il faut faire la charité, il faut donner son argent pour les pauvres. Mais il ne faut surtout pas se vanter d'avoir gagné de l'argent. Alors, dans l'éthique protestante, c'est pareil, il ne faut pas montrer son argent. Par contre, le catholicisme romain pense beaucoup au passage de l'évangile qui dit il est plus dur à un riche d'accéder au royaume des cieux, d'entrer au royaume des cieux, qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase.
Ouais.
Alors, je vais vous la remettre. Donc, il est plus facile. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'un aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, le catholicisme romain, il s'est arrêté là-dessus en se disant « Bon, bah donc, gagner de l'argent, c'est coupable. » Et l'argent est fait pour être partagé, il doit permettre la générosité, le don, etc. Alors que dans l'éthique protestante, il n'y a pas le même rapport à l'argent, selon Max Weber. Après, moi, je ne suis pas protestante, donc je suis mal placée pour le dire. Et donc, il y a une croyance en le fait que la réussite sociale, la réussite économique, ça sanctionne, ça récompense un mérite, et que ce mérite, il est validé par Dieu, en fait. Et que donc, on peut amasser l'argent, il ne faut pas le montrer, il ne faut pas être... faut pas être, on va dire, futile, faut pas être vaniteux, faut pas en tirer un orgueil non plus par rapport aux autres, faut pas que ce soit un instrument de domination, mais c'est quand même quelque chose de positif. Donc c'est des logiques complètement différentes, et du coup, en effet, on peut se dire que si vous réussissez aux États-Unis, c'est que vous l'avez mérité, alors que si vous échouez, c'est que vous l'avez mérité aussi.
Ouais.
Ce qui est moins évident en France. On a moins... Enfin, pas pour tout le monde, hein, tout dépend de la... Mais de manière générale, on voit avec tous ces acquis des années 45 par rapport au communisme et tout ça, qu'on ne considère pas la pauvreté ou la misère sociale comme, majoritairement, comme de la responsabilité des gens. En tout cas, pas seulement. Il y a une part de responsabilité de l'État, de l'histoire, des déterminations familiales, etc., etc. Donc, on ne pense pas qu'une personne soit complètement responsable de sa situation.
Mais pourquoi aux États-Unis, on n'a pas le même système de santé, mais pourquoi c'est comme ça alors qu'il y a aussi la religion catholique qui y est ?
C'est pour ça que je vous parle de l'éthique protestante, c'est-à-dire que dans le christianisme, vous avez deux branches, les catholiques et les protestants. Les catholiques, ils ont évolué dans un certain sens, et les protestants, c'est ceux qui ont fait dissension à la Renaissance, pendant les guerres de religion. Et on a découvert, vous vous rappelez avec Jean de Léry, là, le texte qu'on avait vu, il y a beaucoup de protestants qui sont allés habiter dans le Nouveau Monde. En Amérique du Sud, ça n'a pas trop bien marché, mais en Amérique du Nord, ça a plus marché. Parce qu'ils ont fui les conflits de religion, souvent, voire pour tous ceux qui étaient pour les Français, et pour tous ceux qui étaient anglais, l'Angleterre était déjà passée du côté du protestantisme avec Édouard VIII, avec l'anglicanisme. Et c'est pareil pour les Hollandais qui étaient aussi protestants. Il y a eu des colonies hollandaises en Amérique du Nord, donc en fait, ils se sont implantés là-bas. Et souvent, les gens qui sont allés coloniser le Nouveau Monde, c'était des évangélisateurs. Ils voulaient évangéliser les Indiens, ils voulaient faire se propager la religion, donc la protestante. Et c'était souvent les gens les plus fervents, en fait. Donc, ça a entraîné une certaine dynamique aussi. Je sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, moi, je suis allée une fois. Et en effet, en fait, j'avais pas réalisé avant d'être sur place à quel point toutes les églises sont protestantes. J'étais en train de chercher une église, j'avais envie de dire normale, et j'étais perdue parce qu'en fait il n'y avait pas. Il y en a une à New York que j'ai trouvée, mais c'était assez déstabilisant en fait. C'est pas du tout la même architecture, c'est pas. Tout est différent. Donc voilà. Là, attendez. Donc ça explique ces différentes, peut-être, ces différentes idéologies politiques. Et alors, votre petit 2 ?
Petit 2, eh bien, bah là, ça arrive plus de la contrainte.
D'accord. Donc, la contrainte. Et alors, dites-moi.
Donc j'ai mis comme exemple la Chine.
OK.
Donc, la Chine qui est... Oui, la Chine qui est une république donc populaire, où en fait les habitants sont soumis à des règles strictes et donc leur liberté est réduite. Et donc, comme je l'avais énoncé dans la première partie, où normalement où on doit tout attendre de l'État, surtout la liberté et la sécurité, ici elle y est très réduite.
Il n'y a pas de sécurité, du coup, ni de liberté.
Oui, voilà. Et comme exemple, on peut aussi mettre, par exemple, là, j'ai plus le mot. C'est-à-dire, ils sont surveillés.
Oui.
Partout, en fait, c'est-à-dire, avec les caméras et tout. Voilà, les caméras, mais c'est surtout aussi au niveau sur les téléphones.
Oui.
Oui.
Donc, il y a des mouchards, de l'espionnage.
L'espionnage, ou plus même, par exemple, on a des... comment ça s'appelle les, des chats, ou en fait, par exemple, des applications qu'on ne peut que trouver en Chine.
Oui.
Et on ne peut pas communiquer, par exemple, il n'y a pas Facebook.
Oui, il y a un contrôle de l'accès à certaines données, en fait.
Voilà, exactement.
D'accord. Donc, il y a aussi une réécriture de l'histoire, d'ailleurs, ça va avec. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des photos qui ne circulent pas ou qui sont retouchées pour... C'était le cas déjà en Russie soviétique. Hein. Il y avait certaines photos où Staline n'était pas à son avantage et on les enlevait, quoi. Ou alors qu'on supprimait un opposant de Staline, on l'enlevait des photos. Donc, ouais. C'était du Photoshop avant le Photoshop. Là, c'est pareil. Des données pour les citoyens chinois.
Oui, et c'est pareil aussi pour... avec Mathieu, on avait fait un exposé sur Liu Xiaobo, qui donc, lui, a été un militant pacifiste pour les droits de l'homme de la Chine. Et en fait, il a été... c'est-à-dire qu'il a reçu le prix Nobel de la paix lorsqu'il était en prison.
Ouais.
Et donc, pour lui rendre hommage, ils ont décidé d'imprimer une photo de lui avec, en mettant à côté le prix.
D'accord.
Et en fait, cette photo a fait beaucoup de bruit en Chine et en fait, ils ont décidé de l'effacer et de l'interdire.
Ok.
D'où le fait aussi, le contrôle vraiment de ce qui est la presse. Ou par exemple aussi, j'ai aussi un fait, ça doit être en 2012, où on a... je vais y arriver.
C'est la fin de la journée.
Oui. Xi Jinping, qui en fait a fait passer à tous les journalistes qui résident en Chine un espèce de je perds mes mots, c'est incroyable. un espèce de test pour valider en fait leur opinion sur la Chine.
D'accord.
Et si c'était pas en accord, c'était un petit peu merci, au revoir.
D'accord.
Ouais.
Donc c'est une censure par anticipation en fait. Plutôt que de devoir censurer les textes écrits, ils sélectionnent les gens qui ne risquent pas d'écrire des choses dérangeantes.
Voilà.
Okay. Donc,
nous, ils faisaient un petit peu beaucoup de pression.
Oui, un petit peu beaucoup. D'accord. Donc là, pour l'instant, on a quelque chose qui fonctionne bien. Première partie, nous devons tout attendre de l'État. Vous remarquez que c'est un choix. Hein. C'est-à-dire qu'en partant de la réponse qui vous est la plus évidente, vous vous dites un peu quelque chose de votre sensibilité, mais c'est pas important, puisqu'après, vous allez de toute façon vous exercer à contrebalancer. Donc le premier argument, c'est on a une histoire, un héritage sur le plan social et économique, en France en l'occurrence, qui montre que l'État peut être synonyme de providence. On explique le terme de providence et on détaille les mesures en question. Deuxième argument, l'État doit aussi garantir la sécurité de la propriété privée, qu'on soit d'accord ou pas avec l'idéal socialiste. Et là, on va citer Locke, qu'on ne peut pas accuser de socialisme en l'occurrence, hein, en montrant que l'État, on peut attendre de lui qu'il nous garantisse la propriété privée, qui est aussi une liberté et donc une sécurité. Et ensuite, on contredit, en tout cas, on voit les limites de ce qu'on a dit en disant « mais pourtant, on ne peut pas tout attendre de l'État ». Ce qui est important, c'est d'insister sur le tout. Hein. Donc, je le mets en majuscule. Hein. Parce que, bien sûr, ça appelle à la nuance. Tout, ça semble un peu beaucoup. Donc, il y a quand même la responsabilité individuelle reste engagée. La responsabilité de chacun reste engagée dans ses choix de vie et dans son existence. Donc là, on peut montrer les États-Unis comme exemple par rapport... alors eux, c'est une politique libérale, même très libérale, hein, néolibérale, mais faire le lien avec les idéologies religieuses qui sont en fondement, à savoir éthique protestante pour les États-Unis et catholique pour la France ou l'Europe, en tout cas pour certains pays d'Europe. Et par ailleurs, on peut montrer que de fait, l'État n'est pas toujours synonyme de sécurité et que donc on ne peut pas attendre toujours de l'État de garantir cette sécurité. Avec l'exemple de la Chine, qui est un exemple évidemment un peu gênant. Alors, on va pas avoir le temps de faire le 3. Est-ce que vous voudrez bien me l'envoyer par mail ?
Oui.
Le 3, comme ça, on pourra repartir de là. Bon, c'est bien de faire un petit point un peu exhaustif, autant sur le plan méthodo que là, de connaissances plutôt. Je vais mettre ça sur le blog. Hop, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se dire au revoir proprement quand même. et comme ça, les autres éventuellement pourront s'y référer. J'ai enregistré, donc je pourrais mettre la piste. Je pense que vous pouvez vous rassurer, il ne va pas y avoir des milliers de gens qui ont écouté l'enregistrement. S'il y en a déjà deux, ça va être ouf. Et comme ça, on peut repartir la semaine prochaine de ce plan, déjà. Et on fera la troisième partie et le texte de Hobbes. Voilà.
D'accord. Et quand je me... La semaine prochaine, c'est mardi ou